France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis lundi, trois femmes comparaissent à la cour d'assises spéciale de Paris, trois revenantes. Elles sont jugées pour leur départ en Syrie et leur participation à l'État islamique entre 2014 et 2017. Trois femmes issues du même clan, celui des frères Klein, qui avaient revendiqué les attentats de novembre 2015. Jusqu'à vendredi et l'annonce du verdict, la cour va tenter de mieux comprendre la radicalisation de ces femmes, leur décision de partir et plus encore leur rôle dans l'organisation de l'État islamique. Car depuis 10 ans, maintenant et les premiers procès de ces revenantes, la justice a changé de regard. Auparavant perçues comme des victimes, elles sont désormais considérées comme membres à part entière du califat. Alors comment la justice a-t-elle pris en compte la participation de ces femmes à la violence politique, à l'État islamique? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Constance Willem-Olympiou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse au King's College de Londres. Vous menez une thèse sur la réponse sécuritaire et légale apportée aux revenantes en France. À mes côtés, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1 et vous m'accompagnez comme chaque mercredi dans cette interview. Bienvenue à tous les deux dans Question du soir.
Trois femmes françaises, Jennifer Klein, 34 ans, sa belle-mère Christine Alain, 67 ans, et sa belle-sœur Mayaline Duhard, 42 ans, sont accusées d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie avec leurs maris et leurs enfants.
Mayaline Duhard, qui est la seule des trois accusées à comparaître libre, a d'ailleurs désormais les cheveux courts et décolorés, et face à elle, sa fille, qui, elle, porte un voile quasi intégral. Elle dit regretter aujourd'hui avoir emmené ses enfants en Syrie pour y rejoindre les rangs de l'État islamique. Des regrets également de la part de Jennifer Klein hein, ce lundi. Elle aussi doit faire face à ses enfants, les cherchant du regard, mais n'obtenant peu, voire pas du tout de réponse de leur part. Ce procès devra durer 2 semaines et à l'issue de celui-ci, eh bien, les trois femmes encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.
Un reportage signé France 24, Constance Willem-Olympiou. Trois femmes donc accusées d'avoir rejoint les rangs de l'État islamique. Quelles histoires se cachent derrière cette accusation ?
En fait, il faut, y a une considération dans cela des rôles que les femmes ont tenus avec l'État islamique, mais aussi une interprétation de ces rôles qui a changé au cours des années d'une manière assez significative. Alors, on verra que, en fait, à partir de 2012 jusqu'à 2015, ces femmes étaient invisibles. Elles n'apparaissaient pas dans les procédures judiciaires. Elles étaient peut-être interpellées, et, mais après laissées libérées tout de suite, parce que on partait du principe que ces femmes étaient victimes. C'était qu'elles étaient convaincues ou poussées par leur mari ou leur famille de partir. Et cela a changé au cours des années, à partir de 2016, en fait, jusqu'à 2022, et surtout après les attaques, les attentats ratés des bombes de notre gaz, des bombes de gaz de Notre-Dame, on s'est rendu compte que, en fait, les femmes étaient aussi capables de commettre des attaques, des attentats terroristes. Et alors, ça a commencé progressivement à changer le regard envers ces femmes qui ont été progressivement chargées avec des poursuites pour le AMT, l'Association de malfaiteurs terroristes.
On va revenir sur ces notions et sur cet historique, mais je voudrais qu'on reste un instant avec vous, Julien Bisson, sur l'actualité de ce procès qui a cours actuellement.
Oui, on l'a dit, elles étaient membres du clan des frères Klein, Jean-Michel et Fabien Klein, eux qui étaient les donneurs d'ordre notamment des attentats de novembre 2015, eux ne sont pas rentrés. Est-ce que finalement ce procès, il y a aussi une dimension familiale à prendre en compte. Est-ce que c'est l'ensemble du clan qu'on va juger cette semaine?
Tout à fait. Alors, cette famille, ce procès est particulièrement important pour trois raisons. En premier, parce que justement, ces femmes faisaient partie d'une famille qui est importante dans le monde et la filière djihadiste française. Et les frères Klein sont pas rentrés. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu les juger. Et ils ont quand même joué un rôle très important. Et les femmes, c'est la deuxième raison, les femmes, elles, vu que c'est surtout les femmes qui sont rentrées, elles tiennent un rôle symbolique dans toutes ces poursuites, en fait, parce que c'est les seules qui restent. Alors, tout cet aspect émotif et de revendication, ça se joue dans ces procès contre les femmes revenantes. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, ça démontre un des aspects de radicalisation qui a été frappant, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui se radicalisaient tout seuls dans leurs ordinateurs, il y avait ceux qui faisaient dans des lieux de culte ou autre part, mais il y avait aussi des familles entières qui étaient en rejet du modèle français républicain laïque et qui sont tous partis ensemble. Et c'est ça qu'on a vu avec les femmes, les hommes et les enfants qui sont, enfin les enfants qui ont été amenés, mais tous amenés en Syrie pour faire partie de l'État islamique.
Je voudrais qu'on reste un instant sur ce procès et au sujet de ces trois femmes. Comment est-ce qu'un procès qui se tient bien bien loin de la Syrie, à Paris, des années après les faits, peut permettre justement de récolter les preuves? Comment peut-on savoir ce que ces femmes ont vraiment fait auprès de l'État islamique et parmi leurs rangs?
Alors ça a été une question qui a été très compliquée pour surtout les magistrats d'instruction, les services de renseignement. Alors en fait, on a plusieurs types de preuves qu'on utilise dans ces procès. Beaucoup de preuves viennent, quand ils sont disponibles, des registres de l'État islamique même sur place. Alors pour beaucoup des femmes, ça serait par exemple les registres de pension des veuves de combattants. Parce que l'État islamique adorait la bureaucratie et ils avaient des registres vraiment de beaucoup d'informations. Alors, il y a ça qui est disponible dans beaucoup de cas. Et après, il y a les preuves qui ont été récoltées à partir des réseaux sociaux. Parce que beaucoup de ces femmes jouaient un rôle de recrutement aussi. Alors, il y avait beaucoup de présence sur ces réseaux sociaux qu'on pouvait après retrouver. Et après, bien sûr, il y a tous les témoignages. Alors, en fait, avec le plus en plus de revenantes qui sont rentrées, elles parlent, elles se connaissent. Et les Françaises, les Belges se connaissaient tous. Alors, plus ou moins, il y en a qui diraient qu'elles ne connaissaient pas d'autres, mais c'est pas tout à fait la vérité, d'après ce qu'on a cru comprendre. Alors, elles se côtoyaient, alors elles parlent.
Ces trois femmes, alors justement, oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement? Est-ce qu'on parvient à le savoir? Est-ce que ces trois faisceaux d'indices que vous dessinez là permettent de comprendre ce qui s'est véritablement passé en Syrie et en Irak?
Alors, pour ces femmes-là, ça va être la cour d'assises spécialement composée qui va décider exactement ce qu'elles ont fait, mais les rôles de ces femmes, de manière plus générale, on sait que c'est vrai qu'il y a eu quelques combattantes, mais pas beaucoup. Il y a eu quelques femmes qui ont participé à la police des mœurs, particulièrement violentes, mais pas beaucoup, mais il y en a. C'est vrai que beaucoup de ces femmes sont restées chez elles, ou surtout avaient un rôle dans le sphère domestique. Mais ce qui a vraiment changé au cours des années, et à rajouter, elles étaient à la maison, mais elles portaient des armes, elles avaient des ceintures explosives pour la plupart des cas, elles participaient, ou sinon elles assistaient aux exactions et aux exécutions qu'on voyait dans l'espace public là-bas. Et c'est vrai, elles élevaient leurs enfants pour devenir les lionceaux du califat, pour devenir des soldats pour l'État islamique.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Margot Dubreuil, partie en 2013. C'est un extrait de l'émission Envoyé spécial, datant de novembre 2017.
On voit pas les mauvaises choses qui se passent. Hein, la vie, alors après, c'est... Moi, j'étudiais, ma fille, elle allait à l'école, on allait au parc, on cuisinait. Enfin, je veux dire, c'était une vie vraiment...
Vous avez combattu ?
Aucune femme, en fait, qui...
Vous avez appris à manier une Kalachnikov, par exemple?
Il nous montre comment monter et démonter une arme. Et moi, je l'ai fait pour leur montrer que, en gros, c'était acquis.
Vous êtes prête à aller en prison si jamais vous parvenez à revenir en France?
Bien sûr. Je pense que je me suis préparée depuis longtemps à ça. C'est-à-dire, on dit qui ne dit mot consent. Un contrat tacite. Mais moi, je répète que de mes mains, je n'ai rien perpétré. Je n'ai pas désiré, je n'ai pas approbé les choses qui se sont passées. C'est-à-dire que je me suis désavouée de ça intérieurement. Ça fait longtemps que je cherche une solution pour faire machine arrière.
Julien Bisson.
Oui, Constance Villemolin-Piou, on a entendu le témoignage de cette femme partie dans la zone irako-syrienne. Est-ce que, pour comprendre plus largement la problématique des revenantes, est-ce qu'on sait combien de femmes sont parties rejoindre l'État islamique et combien sont revenues?
Alors oui, il y a environ 500 femmes qui sont parties. Ça va faire plus ou moins un tiers de tous les partants français envers l'État islamique. Et il y a environ 150 femmes qui sont rentrées jusqu'ici, et qui soit ont été jugées ou qui seront jugées. Oui.
Toutes ces femmes qui sont rentrées ont toutes été jugées ou est-ce qu'il y en a certaines qui n'ont pas été condamnées?
Alors oui, alors ça c'était par rapport à mes propos un peu plus tôt, mais en fait c'est au début elles n'étaient pas jugées, mais en fait on a vu que même celles qui étaient rentrées entre disons 2014 et 2016, il y en a quelques-unes qui après qu'on les avait laissées partir, qu'on a repris et qu'on a réappréhendé des années plus tard pour ouvrir une instruction contre elles.
Et qu'est-ce qui a motivé ce changement de regard de la justice française?
Oui, alors très bien. C'est alors l'événement le plus important pour ça. C'était vraiment cet attentat raté des bonbonnes de notre gaz. Excusez-moi,
j'ai de notre fait table, notre table,
j'ai fait ça
de
deux
gaz.
Fois. parce que c'était une cellule féminine qui était partie faire ça.
Alors, t'as raté en 2016.
En 2016, oui.
À ce propos, justement, on va écouter à propos de cet événement majeur. Hein, vous le décriviez, la voix de François Molins sur l'affaire Madani, donc ces bonbonnes de gaz auprès de Notre-Dame.
Un commando terroriste composé de jeunes femmes totalement réceptives à l'idéologie mortifère de Daesh a été démantelé. Le passage à l'acte par des jeunes femmes téléguidées par des individus se trouvant en Syrie dans les rangs de l'organisation terroriste Daesh démontre que cette organisation entend faire des femmes des combattantes. Si les femmes ont pu, d'abord, sembler être confinées à des tâches familiales et domestiques par l'organisation terroriste Daesh, force est de constater que cette vision est aujourd'hui largement dépassée. L'organisation terroriste utilise non seulement des hommes, mais aussi des femmes, des jeunes femmes, qui font connaissance et nouent leurs projets de manière virtuelle.
Ils sont frappants, Constance Villemolin-Piou, ces propos de François Molins, vision dépassée, dit-il. C'est vrai, lorsqu'on prend un peu de recul, comment a-t-on pu penser un temps que les femmes n'étaient pas impliquées d'une manière directe ou indirecte dans les sévices et les crimes commis à travers l'État islamique ?
Bah, les stéréotypes de genre, les propos qu'on tient, que les femmes sont plutôt passives, non violentes, maternelles, tout cela, et que à cause de cela ne pourra jamais rejoindre consciemment un groupe terroriste, surtout un groupe aussi violent que l'État islamique, ça a persisté pour très longtemps. Et ça veut dire que même face aux preuves qu'on avait, que les femmes savaient ce qu'elles faisaient, qu'elles étaient recrutées avec l'intention de faire partie de ce que le PNAT, le parquet national antiterroriste, a plus tard appelé un projet civilisationnel de Daesh, de prendre un rôle dans ce projet civilisationnel, c'est-à-dire que d'avoir une intention même dans chaque tâche domestique, qui était une intention terroriste en fait, et a contribué à un projet terroriste, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que c'était face à une confrontation sociétale qu'on avait de non seulement des femmes, mais aussi des femmes musulmanes.
Mais même la DGSI, les services secrets français qui ont suivi ces femmes, suivi ces personnes, tenter de comprendre justement quels étaient leur parcours, ce qu'elles avaient fait là-bas en Syrie et en Irak, même cela, face à la matérialité des faits, les biais de genre étaient plus forts, si je puis dire.
Si j'ose dire, c'était particulièrement fort dans le cas de la DGSI. En fait, ils étaient face à des femmes qui disaient clairement « Moi, j'y crois. Je suis pour Daesh. J'y crois à leur société, à leur plan, à leur projet. » Même ces femmes-là ont été lâchées après les premières quelques années.
Julien Bisson.
Vous expliquiez plus tôt dans cette émission que l'essentiel de ces femmes est resté des femmes au foyer, qui n'étaient pas forcément combattantes, qui n'étaient pas forcément dans la police des mœurs. Est-ce que elles vont être jugées de la même façon que des hommes qui, eux, auraient participé à des combats, qui auraient tué, qui auraient torturé?
Alors, c'est ça cet aspect du projet civilisationnel de Daesh est là où ça devient particulièrement important. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a eu des changements de profil de ces femmes. Celles qui sont rentrées avant 2015, elles étaient encore dans une... elles étaient capables de dire qu'elles ne savaient pas exactement quel était le groupe qu'elles rejoignaient, que ce n'était pas clair. Après 2015, c'était fini. On ne pouvait pas dire qu'on était, après les attentats de novembre 2015, on ne pouvait plus dire qu'on n'était pas au courant des intentions de ce groupe. Alors, même après ça, ça a pris des années. Les femmes étaient seulement poursuites pour l'association de malfaiteurs terroristes, AMT, correctionnelle, c'est-à-dire pour un soutien logistique et matériel, mais pas comme des vraies participantes du groupe. Et c'est un regard de plus en plus lourd et sévère a été apporté envers le rôle de ces femmes. Et à cause d'un changement d'interprétation, en fait, de leur rôle.
Vous voulez dire que la législation aujourd'hui met au même niveau les hommes et les femmes ?
La jurisprudence met au même niveau les hommes et les femmes. C'est-à-dire que on avait toujours cette possibilité de les juger pour AMT et pour un AMT criminel dans le cours d'assises spécialement composé.
AMT, c'est une association de malfaiteurs terroristes.
Tout à fait. Le choix a été fait, surtout à partir de 2023, et les femmes, avec les premiers jugements des femmes qui sont restées jusqu'à la fin de Daesh, jusqu'à la chute de Daesh en 2019, et qui sont après partis dans les camps, dans le nord-est syrien, pour la vaste majorité, c'est des femmes qui y croyaient. Elles attendaient que Daesh revienne. Alors, ces femmes ont été jugées dans les premiers procès en 2023 avec cette idée et cette interprétation que même si... Elles avaient porté des armes, mais même s'ils ne sont pas nécessairement partis au combat, qu'elles avaient un rôle aussi important pour Daesh que les hommes.
Aujourd'hui, est-ce que pour la loi française, pour la justice française, est-ce que le seul fait de rejoindre les rangs de l'État islamique est considéré en soi comme un acte terroriste ?
Tout à fait. Ça, c'est le précédent qui a été établi en France. Alors, poursuivi pour cette infraction, il faut avoir démontré qu'on savait que le groupe avait des intentions de commettre des actes terroristes et qu'on était... Alors, cet aspect d'intention est très important. Tant qu'on le savait et que les gens sont partis... Et tous les revenantes sont par défaut parties pour rejoindre ce groupe-là. Elles peuvent et les hommes et les femmes peuvent être considérés et poursuivis pour l'association de malfaiteurs terroristes.
Julien Bisson,
vous évoquiez tout à l'heure le volet maternel. Oui. Ça a pu un temps les dédouaner d'une certaine façon en disant mais ce sont des victimes qui suivent et qui s'occupent de leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, ce volet maternel, la question de la maternité, pourrait être au contraire un facteur aggravant dans la façon dont elles vont être regardées et jugées ?
Alors oui et non. Oui, parce que une des charges additionnelles, en plus de l'AMT, l'Association de malfaiteurs terroristes, c'est une charge d'avoir endommagé le bien-être de leurs enfants et en les amenant en zone de guerre. Alors jusqu'ici, celles qui ont eu des enfants sur zone, soi-disant sur zone, c'est-à-dire en Irak et en Syrie, n'ont pas été poursuivies pour cela. Mais il y en a beaucoup qui ont amené leurs enfants avec elles. Il y a environ 500 enfants que ça concerne. Qui ont été poursuivies pour cela aussi. Alors ça devient aussi compliqué d'un autre côté parce que se séparer de ce côté de la maternité et de dire, on veut les poursuivre pour cela, mais est-ce que les enfants doivent quand même rester avec leur mère? Est-ce que les peines devraient être moins sévères pour que les femmes auront plus de temps, ou moins de temps en prison et plus de temps avec leurs enfants? Quel serait l'effet qui aurait le moins d'endommagement sur ces enfants qui sont quand même un groupe de victimes très important de ce groupe?
On entendait tout à l'heure qu'elles risquent 30 ans de prison, ces trois femmes qui sont aujourd'hui en jugement. Mmh. Concrètement, les peines qui sont prononcées depuis quelques années, est-ce qu'on peut mesurer à peu près quels sont le type de peines qui vont être infligées à ces revenantes?
Alors, dans les dernières années, les moyennes de peines, c'était entre 6 et 17 ans.
De prison ferme?
De prison ferme. Voire en prison ferme avec deux tiers de sûreté. Je pense que c'est ça le terme. Mais Inès Madani, par exemple, l'actrice principale de Les bonbons de gaz de Notre-Dame, a eu, il me semble, elle a eu 30 ans de réclusion, mais c'était pas une revenante. Alors pour les revenantes, jusqu'ici, on a vu plus ou moins entre 6 et 17 ans. Et pour les dernières revenantes, en 2023, Amandine Lecoz et Doua Mounib, qui ont été les premières jugées, qui arrivaient des camps, elles ont eu 10 et 12 ans chacune.
La France n'est évidemment pas le seul pays à retrouver des revenantes. Que nous enseignent les pays étrangers dans ce domaine? Est-ce que la France est plus ou moins sévère que d'autres pays, notamment européens?
Alors la France a eu la réponse la plus sévère parmi tous les pays européens envers ce groupe-là. Et en grande partie, c'est à cause de la largesse, du fait que l'association de malfaiteurs terroristes est une infraction très large. Ça peut aller jusqu'à 30 ans de peine, mais ça compte, encore une fois, ça aurait été suffisant qu'elles étaient parties rejoindre l'État islamique et qu'en sachant ce qu'était le groupe. Et après, on peut rajouter, on aura une AMT plus ou moins sévère par rapport à l'épreuve qu'on a pour chaque personne.
Il faut quand même dire que ce concept-là, celui d'association de malfaiteurs terroristes, pose plusieurs questions. Vous avez évoqué la largesse de ces interprétations possibles. Il y en a une autre, c'est une condamnation que beaucoup trouvent extrêmement prédictive. On condamne quelqu'un avant qu'il ait commis un acte terroriste. Est-ce que beaucoup de questions sont soulevées justement par cette notion-là?
Oui, bah bien sûr. Alors, je dirais en premier que les revenantes, vu qu'elles étaient parties, c'était pas l'AMT de préparation d'actes terroristes, parce que comme elles étaient parties rejoindre le groupe, ça c'était l'acte terroriste en soi, une participation à un groupe terroriste. Mais certainement, ceux qui ont été en voie de préparation d'attentats, et il y a eu quand même beaucoup d'attentats qui ont été arrêtés grâce à cette infraction, ça rentre dans un espace très problématique, certainement. Au niveau pénal, parce que on doit anticiper et on peut pas voir dans la tête des gens.
Julien Bisson,
Est-ce qu'on sait combien de femmes combattantes françaises sont encore en Irak ou en Syrie, en prison notamment, et seraient susceptibles de revenir sur notre territoire?
Alors, on sait qu'il y a plus ou moins 50 femmes, il me semble, qui sont encore dans les camps. Et pour les prisons, je ne peux pas vous dire. Oui. Vous voulez retourner à la comparatif aussi?
La question, c'était de savoir justement ce flux de revenantes qui sont parvenues en France. Mmh. Est-ce que le flux est en train, j'allais dire, de se tarir? Est-ce qu'on observe de moins en moins de femmes qui sont présentement en train de rentrer, ou prochainement on s'attend à d'autres retours?
On aura besoin, pour des raisons sécuritaires, ce serait une bonne chose de rapatrier les dernières femmes qui restent dans ces camps, et pour leurs enfants aussi, parce que les enfants restent dans des conditions où ils n'ont jamais eu de soutien sanitaire, de santé, d'école. Ils sont dans des conditions apocalyptiques, on les a appelés. Alors on aurait besoin de ramener ces enfants et ces femmes, c'est des femmes qui ont refusé de rentrer. par les rapatriements volontaires. Ça veut dire que c'est les femmes qui sont à fond dans l'idéologie, et ça, surtout vu la résurgence de Daesh récemment, quand même en Syrie et en Irak, ils ont fait commis des attentats dans les dernières années, les derniers mois. Ça serait mieux qu'elles rentrent.
Merci beaucoup, Constance Willem Olympiou. Je me tourne vers vous, Julien Bisson. Qu'est-ce que l'on trouve à la une du magazine Le 1 ? Un ange blond, c'est ce que j'aperçois.
Oui, tout à fait. Où est passée l'Amérique de Robert Redford ? Retour sur les combats de l'acteur pour l'environnement, pour la liberté de la presse, pour la démocratie, pour les droits des Amérindiens ou des LGBT à l'heure où l'Amérique semble leur tourner le dos.
Merci à vous deux. Merci d'être venus à la question du soir et merci à celles et ceux qui l'ont préparé. Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Rudy Eken à la réalisation, Margot Page et Alexandre Dang à la technique.